Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Guillaume Ménard, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Léa Sabourin. À la réalisation, Émilie Valla, prise de son, Jacques Azubert.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Deuxième jour de notre série consacrée à l'économie du voyage. Hier, nous avons observé les effets du tourisme de masse sur les villes et sur l'environnement, alors que le nombre de visiteurs internationaux poursuit son irrésistible ascension. Demain, c'est le modèle économique d'Airbnb que nous allons questionner avant de nous pencher jeudi sur le retour du concept de voyage et sur les pratiques qui l'accompagnent. Mais d'abord, inscrivons-nous dans les pas des voyageurs du 19e siècle. Comment le tourisme s'est-il inventé et quel est le modèle économique qui lui a été associé? Voilà les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons retracer l'histoire économique du voyage en compagnie de Sylvain Venner, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de Panorama du voyage 1780-1920, mots, figures, pratiques, publié aux Belles Lettres. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Bonjour Sylvain Venner.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors non, vous n'êtes pas professeur à Panthéon-Sorbonne, mais à Grenoble, c'est bien cela. Voilà qui est précisé. Et alors c'est avec Stendhal que nous allons ouvrir cette émission.
Hier, j'ai eu du courage. Couvert de poussière et en habit de voyage, j'affrontais la curiosité et les regards hébétés des provinciaux, le tout pour aller voir des antiquités. La Porte d'Arnoux ou de Sens est un admirable ouvrage des Romains. C'est un arc de triomphe avec deux grandes arcades et à côté deux plus petites. Au-dessus, on voit 6 arcades plus étroites, formant une sorte de galerie. Il y en avait 10 autrefois, 4 ont disparu. Les colonnes engagées entre ces arcades sont d'ordre corinthien. Et si l'on tient à avoir une idée de ce monument simple et grand, il faut en chercher une gravure. Il m'est impossible de donner une sensation, et je ne puis me résoudre à me jeter dans les phrases hyperboliques et néologiques. Je ne peux qu'expliquer une gravure, non y suppléer. Ce vénérable reste de l'Antiquité romaine a 19 mètres de largeur sur 17 de haut. Dès que je l'ai aperçu, je me suis cru en Italie. Mon cœur, attristé par les églises gothiques, s'est épanoui. Au lieu de souvenirs de miracles absurdes et souvent dégradants pour l'être suprême qu'on prétend honorer, au lieu de têtes de diables mordant des damnés sculptées au chapiteau des colonnes et dans tous les coins des églises chrétiennes, je me suis rappelé le peuple roi et ses victoires, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus important parmi les hommes. On me rabaissait l'idée de Dieu par l'image saugrenue de toutes les sottises qu'il a permis de faire en son nom. On relève à mes yeux l'idée de l'homme. L'entablement qui couronne les 4 arcades du plus bas et de la plus haute majesté, il m'a reporté dans Rome.
Un extrait des Mémoires d'un touriste, paru en 1838 et lu ici par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Que vous inspire ce texte, Sylvain Venner? Qu'est-ce qu'il nous raconte selon vous?
Beaucoup de choses. D'abord ce titre, Mémoires d'un touriste, il faut voir qu'en 1838 il a été extrêmement critiqué. C'était un anglicisme touriste à l'époque, donc on avait l'impression que Stendhal, qui était connu pour son anglophilie, en fait faisait bon marché de la culture française avec ce livre-là. Et puis derrière, c'est un livre extrêmement original et remarquable, Les Mémoires d'un touriste, mais c'est un livre d'un récit de voyage de Stendhal en France. Et on voit bien dans cet extrait-là que le modèle, c'est l'Italie. Mmh. Et que ce qu'on va chercher dans ce premier âge du tourisme, disons, est sur un modèle anglais. Ce sont les émotions esthétiques et artistiques liées à l'Italie. D'ailleurs, il nous en reste quelque chose aujourd'hui quand on pense à ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal. C'est-à-dire ce fait de se trouver mal devant une œuvre d'art. C'est quelque chose qui, par la suite, a orienté toute l'histoire du tourisme. Quand on pense aujourd'hui à ces Japonais qui sont à Paris, victimes du syndrome de Paris, en fait, on fait référence comme ça à toutes ces pathologies du déplacement qui sont liées à l'âge du tourisme.
On fait référence à cette émotion devant un paysage ou un monument qui a été particulièrement exalté par Stendhal, mais plus largement par les romantiques au début du 19e siècle, Sylvain Venner.
Oui, alors il y a beaucoup de choses. Il y a effectivement cette poétique des ruines qu'on va chercher, c'est-à-dire ces églises qui sont désaffectées, ce forum à Rome, mais pas que. Hein. C'est aussi lié à l'invention des musées, Les cabinets de curiosité ne sont pas une chose nouvelle, et dès l'époque moderne, les riches aristocrates pouvaient aller voir les cabinets de curiosité de leurs collègues, alors en Italie et partout en Europe. Mais enfin, à partir de la création des musées modernes, disons sous la Révolution française, les choses changent. Vous pouvez aller à Berlin, sur l'île de l'Achepré, et d'un seul coup vous retrouvez dans cette île des musées pour voir le monde entier, l'Europe entière et toute son histoire.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Stendhal utilise ce mot touriste avant que le mot ne s'impose dans la langue française.
Il est en train de s'imposer, enfin en gros on considère que la première fois qu'on le voit apparaître en français, c'est disons dans les années 1810, mais vous voyez en 1838, le mettre dans un titre d'ouvrage, c'est encore perturbant. En anglais, le terme est apparu dans les années 1780, et ça signifie très exactement celui ou celle qui pratique le grand tour. C'est cette expression qui date de la fin du XVIIe siècle et qui renvoie à une conception du voyage qui est le voyage comme gage de connaissance, comme apprentissage.
C'est d'abord le voyage pédagogique.
C'est le voyage qui, comme le dit Chateaubriand, complète le cercle des études. C'est le voyage qu'on fait une fois qu'on a fini ses études, en réalité, et qu'on part vérifier sur le terrain les connaissances qu'on a préalablement acquises dans un voyage qui peut durer 2 ans.
Mais le grand tour dont vous parlez, Sylvain Venner, est réalisé principalement par les jeunes aristocrates britanniques, en tout cas dans un premier temps, puis ensuite cela vient en France.
Oui, alors là aussi, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mon collègue Gilles Bertrand a bien montré que ça n'était pas une spécificité britannique, que certes les Britanniques étaient très majoritaires sur les chemins du grand tour, mais vous aviez aussi des aristocrates allemands, français. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment est-ce que se négocie la géographie de ce grand tour. C'est-à-dire comment est-ce que progressivement on cesse de faire de Rome, voire de Naples, le but du voyage, mais qu'on va aller de plus en plus vers le sud de l'Italie et puis ensuite vers la Grèce, en particulier après l'indépendance grecque de 1830. Et comment est-ce que le détour par la Suisse va devenir de plus en plus important. Or la Suisse, c'est très différent de ce que vient de raconter Stendhal, puisque la Suisse, on n'y va pas pour voir des souvenirs de l'Antiquité, on y va pour voir des paysages.
Mais alors, ce qu'on constate, Sylvain Venner, c'est que dès la fin du XVIIIe siècle, le comte Léopold Berchtold, qui est le chambellan de l'empereur d'Autriche, publie un essai sur le tourisme, et alors lui propose un itinéraire déjà. On est à la toute fin du XVIIIe siècle.
Oui, alors il le publie en l'occurrence à Londres, pour les Anglais, parce que, dit-il, ce sont les Anglais qui sont les plus grands voyageurs d'Europe. Ce que tout le monde dit à l'époque, hein, c'est Chateaubriand, là encore, explique que c'est aux Anglais qu'on doit de pouvoir manger du roast beef et de boire du Porto aux portes de Sparte. Mais Berchtold n'est pas le seul, il y en a énormément qui proposent des itinéraires comme ça. Berchtold, celui qui propose dans ce livre-là que je connais, en plus, est amusant puisqu'il précise lui-même que quand lui-même a fait son grand tour, il n'a pas suivi cet itinéraire-là.
Il parle de l'Italie principalement.
L'Italie, c'est le but, mais non, on passe aussi par le sud de la France, on passe par la vallée du Rhin, on passe par Paris. Je vous dis, la Suisse de plus en plus pour aller voir des paysages qu'on commence à codifier comme étant des paysages sublimes ou pittoresques. Ce sont ces émotions-là qu'on va chercher, et du coup avec des conséquences économiques incroyables pour le coup, puisque si vous allez en Italie, si vous êtes un aristocrate qui va en Italie, vous allez rentrer dans la logique des lettres de recommandation qui vont faire que vous allez être hébergé par tel ou tel de vos compères aristocrates. Mais si vous allez en Suisse pour voir la montagne, il va falloir qu'à un moment donné, on vous trouve un hébergement. Et c'est cet impératif-là qui a conduit progressivement à créer en Suisse les premiers hôtels qu'on va appeler les hôtels internationaux, dans un style qu'on va appeler un style international, avec des commodités qu'on appelle à l'anglaise, parce que les Anglais, voyageurs anglais, veulent leur water closet sur le couloir.
Et mais cette industrie hôtelière sera un modèle, effectivement, pour l'industrie française.
C'est le modèle, c'est ce qui fait que Gustave Flaubert, dans le dictionnaire des idées reçues, dit à la lettre H, hôtels ne sont bons qu'en Suisse.
Et on parle d'une propreté particulière qui serait présente dans les hôtels suisses.
C'est ce mythe de la propreté helvétique qu'on retrouve jusque dans Astérix chez les Helvètes, et qui est un mythe total. C'est-à-dire que les Suisses n'étaient ni plus propres ni plus sales que les autres habitants de l'Europe à l'époque, mais par contre, leurs hôtels, parce que précisément il avait fallu les créer, eux étaient plus propres.
Et alors, les guides de voyage n'existent pas encore, mais il y a un certain nombre de conseils qui sont prodigués. Alors on parlait de Léopold Berchtold, mais il y a aussi l'écrivain et journaliste allemand Reichardt, qui est parfois considéré comme l'auteur des premiers guides de voyage et qui donne des conseils assez précis.
Oui, alors les guides de voyage, l'histoire est très très longue, puisqu'en fait, les premiers guides de voyage, en réalité, sont des guides de pèlerinage du Moyen-Âge, et se met en place dès le XVIe siècle des guides qui vont finir par ressembler à ce que nous on connaît. Ce qui est original à ce qui se met en place, disons, au début du XIXe siècle, et c'est là l'originalité de la période, c'est qu'on crée des collections de guides. Et ces collections de guides, elles vont avoir pour effet formidablement critiqué, d'ailleurs, dès cette époque-là, de standardiser les comportements. Ce qui incarne ça, mais encore aujourd'hui, c'est ce code de l'astérisque. C'est cette idée, les choses à voir.
Pour codifier ce qu'il y a à voir. Ouais. Et les hôtels et les restaurants par lesquels il faut potentiellement passer. Alors le but de ces voyages, qui ont, on l'a dit, des vertus pédagogiques, était aussi d'apprendre des notions d'économie.
Conduisez-vous en Italie un jeune homme pour la première fois. Celui-ci, au moment où on servira le café, ne manquera pas de remarquer le petit nombre et la dimension minuscule des morceaux de sucre qui l'accompagnent. Observation futile et sans intérêt? Non, pas. Le sucre est très cher en Italie. Aussi a-t-on l'habitude de l'économiser comme une denrée précieuse. C'est l'instant d'apprendre aux jeunes voyageurs que le même kilogramme de sucre qui vaut 50 centimes en Suisse et 80 en France se paye 1,60 francs en Italie et en Autriche. Vous en déduisez des considérations intéressantes et instructives sur le jeu des droits producteurs et des impôts indirects, montrant l'aversion pour les Suisses pour les impôts de consommation et les nécessités budgétaires qui ont fait conserver ce tarif prohibitif en Italie, malgré les conséquences fâcheuses qui en résultent pour l'alimentation, dont le sucre est un aliment essentiel. Vous remarquerez qu'en Italie, on ne mange jamais de riz au sucre, de petits pois au sucre, que les confitures y constituent presque un dessert de luxe. Vous ne manquerez pas d'ajouter que la différence énorme de prix entre les pays limitrophes constitue un appât pour les fraudeurs, et que la contrebande, pour le sucre comme pour le tabac, s'exerce sur une large échelle entre la Suisse et l'Italie, comme entre la Suisse et l'Autriche, privant ainsi le fisc de droits importants, malgré la sévérité de la consigne, parfois avec la complicité des autorités. Et voilà comment une tasse de café peut servir de prétexte à une leçon amusante d'économie politique.
Voilà la leçon d'économie du philologue Albert Dauzat, extrait de son essai sur l'art de bien voyager, paru en 1911, et lu ici par Cédric Fuentes. L'élite qui voyageait, Sylvain Venner, devait apprendre l'économie politique afin peut-être de se préparer à prendre en charge les affaires du pays.
Alors non, plus en 1911. C'était vrai à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, jusqu'à la fin de cette époque du Grand Tour, disons jusque dans les années 1830-1840 à peu près. Mais la différence énorme entre ce que raconte Albert Dauzat en 1911 et les pratiques du Grand Tour, c'est que, encore une fois, dans les pratiques du Grand Tour, on partait vérifier des connaissances qu'on avait déjà acquises. C'était vrai pour l'histoire de l'art ou la littérature ou l'architecture, absolument tout.
Alors qu'ici, il y a l'idée d'une découverte.
Et les langues, c'est-à-dire qu'en fait, on partait voyager une fois qu'on avait appris le français, l'italien, l'allemand, si on était anglais. Là, c'est en 1911, on est dans une autre logique. On est dans la logique d'un voyage démocratique, disons, où on est beaucoup plus court. Beaucoup plus court, on part pas 2 ans, on part peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Ça ressemble un petit peu au voyage d'école d'aujourd'hui. Et ce que propose Dauzat, c'est d'en tirer le meilleur parti, et en inversant un petit peu cette logique du Grand Tour et en retrouvant une très vieille conception du voyage. C'est pour ça qu'il appelle son livre L'art de voyager. Les arts de voyager, c'est un genre littéraire depuis le XVIe siècle. C'est cette idée que le voyage est une source d'apprentissage par l'expérience acquise. C'est sur place, vous allez apprendre quelque chose que vous ne pourriez pas avoir appris préalablement ou pas aussi bien dans les livres.
Et notamment l'économie, ce qui peut vous amener à vous former sur des notions qui peuvent vous servir par ailleurs.
Oui, mais a priori, en 1911, contrairement à cette élite du Grand Tour, cette élite masculine du Grand Tour, pas nécessairement pour diriger le pays ensuite.
Oui, pour pratiquer peut-être d'autres activités. Alors ce qu'on constate en même temps, Sylvain Venère, au 19e siècle et même au début du 19e siècle, sous la monarchie de Juillet, c'est une autre pratique, le Tour de France des compagnons. C'est finalement un voyage qui se situe à l'autre bout de l'échelle sociale par rapport au Grand Tour.
Oui, alors, enfin, le voyage des compagnons n'apparaît pas sous la monarchie de Juillet, c'est une vieille histoire ça aussi. Mais
se développe véritablement à ce moment-là ou...
Non, il se charge politiquement.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on est on est au moment où se pose la question de savoir justement qui a accès aux affaires du pays. Ces grands débats sur le suffrage censitaire contre le suffrage universel et si c'est un suffrage censitaire lequel on doit fixer contre cette confiscation du vote par en particulier les ministères Guizot successifs. Enfin, le ministère auquel Guizot participait, il y a une tentation qui consiste à faire de la pratique même du voyage en France le moyen de l'accomplissement de la démocratie. En gros, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, naguère, sous l'Ancien Régime, les gens ne voyageaient pas, à commencer par les rois, on pense à Louis XVI, roi fort peu voyageur. Et sous la Révolution, ce qui s'est passé au contraire, c'est qu'on a la démocratie s'est manifestée par une certaine pratique du voyage que représente bien la fête de la Fédération, tous ces gens qui montent à Paris. Abolition aussi des péages à l'intérieur même du territoire. Abolition progressive des passeports pour voyager à l'intérieur du territoire.
Donc ça ne doit plus être l'apanage d'une élite, d'une aristocratie.
Non, et puis aussi cette idée que le corps de la nation, ça n'est plus le corps du roi. Il faut identifier le corps du peuple, et en fait, c'est toute une tradition qui va apparaître au lendemain de la Révolution et qui s'épanouira avec la géographie vidalienne, si on veut. C'est que ce sont les paysages de la France qui permettent, par leur immense variété, de signifier en quelque sorte l'universalisme de la nation.
Oui, il y a une dimension patriotique. L'idée, c'est véritablement de découvrir cette géographie de la France.
Oui.
Peut-être plus encore après la défaite de 1871 face à l'Allemagne.
Oui. Encore que après la défaite de 1871, précisément, on va organiser beaucoup de connaissances des petites patries. Hein. Les instituteurs sont invités à faire découvrir à leurs élèves le territoire de la commune et celui de la commune d'à côté. Mais on va aussi organiser des voyages en Allemagne, justement, des voyages d'études.
Est-ce qu'il n'y a pas cette idée que la puissance de l'Allemagne vient de cette pratique qui est peut-être plus développée du voyage et de la découverte des pays étrangers ?
Oui, alors ça c'est tellement... Effectivement, on le dit beaucoup au XIXe siècle, le peuple qui s'est le moins voyagé, c'est le peuple français.
Et c'est une faiblesse.
Et que c'est une faiblesse. Alors on va retrouver ça dans des tas de critiques politiques. Évidemment, les Allemands, la victoire allemande de 1870-71 est imputée à la connaissance de la géographie de la France que les soldats allemands auraient eu supérieurement aux soldats français eux-mêmes et à l'enseignement de la géographie dans les écoles allemandes. Mais on dira la même chose à propos du fait colonial entre la France et l'Angleterre. Ce lieu commun de l'économie politique coloniale de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, qui consiste à dire que les Français n'ont pas le génie colonisateur, contrairement aux Anglais, parce que les Français seraient trop centralisateurs, seraient incapables d'organiser le gouvernement indirect des territoires. Tout ça, en général, ça se fonde sur une première critique majeure qui est vous, les Français, vous savez pas voyager.
Mais c'est une représentation qui a la dent dure et qui débouche très concrètement sur, vous l'avez dit, des voyages, des excursions pendant la Troisième République, dans un cadre scolaire, et des excursions qui sont aussi et déjà organisées par des sociétés privées.
Oui. Pas... L'école peut prendre en charge ça aussi.
Mais il y a vraiment une volonté de faire découvrir cette géographie. Je crois qu'il y a des bourses aussi qui sont créées pour inciter les jeunes Français à voyager. Je pense au banquier mécène Albert Kahn qui crée ces bourses autour du monde.
Oui, mais alors, bien sûr, les bourses Albert Kahn, c'est un phénomène absolument remarquable parce que, pour plein de raisons. Et notamment parce qu'Albert Kahn avait intuition qui doit nous frapper, nous autres, en 2019, de la disparition d'une grande partie de la diversité de la planète. Et donc, il fallait prendre ça très rapidement en photo, ou en film, envoyer des opérateurs un petit peu partout. Et il y avait cette logique des bourses, qui était, pour une part, une logique étonnamment moderne, on va dire, parce que Albert Kahn accordait volontiers ses bourses à des jeunes femmes, mais qui était aussi, malgré tout, une fois qu'on avait décidé de qui était digne de la bourse et qui n'en était pas digne, une pratique assez élitiste du voyage.
Et c'est en tout cas véritablement au 19e siècle qu'émerge cette figure du touriste.
Bon, allez, on traîne pas. Oh, puis vous aussi, mon Dieu, vous êtes lent.
Oh. Oui, si vous aviez pris moins de bagages.
Non, mais ce sont mes tenues. Je vais pouvoir me changer en fonction de mon humeur. Et puis je crois que répandre un peu de l'élégance parisienne, c'est ça aussi le tourisme. Oh Dieu, c'est chaud.
Oh. Oh mais c'est ta faute aussi, depuis Paris, tu nous presses, tu nous bouscules. Oh, c'est vrai qu'il fait chaud. La prochaine fois, à la montagne, on y va en hiver.
En hiver? À la montagne? Qu'est-ce que les Parisiens comme nous feraient en hiver à la montagne? Pourquoi pas l'été au bord de la mer pendant que vous y êtes? Oh ma douce, vous dites de ces sottises parfois. Vous êtes bien la femme de... Enfin la fille de... Enfin la mère, je me comprends. Monsieur l'agent, le train est bien direct pour Montanvert.
Il y a deux stations, Chamonix ici et Montanvert là-haut.
Ah, donc c'est direct.
Deux stations, ici et là-haut.
Pas de changement alors.
Voyager pour affaires ou bien?
Ah non, nous sommes des touristes. Nous pratiquons le tourisme. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Non. Enfin bref, j'ai initié ce voyage d'agrément à la mer de glace pour marquer d'une pierre blanche deux événements. Très importants. Premièrement, j'ai vendu mon affaire, une très très grosse affaire. Voilà. Et deuxièmement, nous fêtons ma Légion d'honneur.
Voilà, vous avez peut-être reconnu la voix de Didier Bourdon dans Le Voyage de Perrichon, un téléfilm inspiré de la comédie de Labiche, la pièce qui est représentée pour la première fois à Paris le 10 septembre 1860. Après le voyage éducatif, c'est le voyage d'agrément qui se développe de plus en plus.
Oui. Alors là, je pense que dans l'extrait, je connais pas cette version, mais ça n'est pas la version de Labiche, parce que à l'époque
inspiré librement voilà. De Labiche, très librement sans doute.
En 1860, personne n'aurait songé à s'amuser de ce que les gens partaient à la montagne l'été et sur la côte. Sur la mer, à la mer l'hiver. Mmh. Voyage d'agrément 1860, c'est quelque chose qui commence à prendre un petit peu depuis les mémoires d'un touriste de Stendhal en 1838, et notamment pour une raison qui est bien indiquée là dans l'extrait, qui est le développement des chemins de fer. Puisqu'assez rapidement, les compagnies de chemin de fer qui commencent à mettre en place le premier réseau ferré français, à partir de la fin des années 1830, jusque précisément aux alentours de 1860, ce sont ces compagnies qui vont participer activement à l'industrialisation du tourisme, notamment par une pratique qui va vite devenir obsolète, mais qui est très importante au milieu du 19e siècle, qui se met en place à l'été 1847, qu'on appelle les trains de plaisir. Et les compagnies de chemin de fer, le territoire français est divisé à l'époque entre 6 compagnies de chemin de fer, elles proposent à leurs usagers, à leurs clients, des billets pour des trains de plaisir.
Alors, c'est vraiment une exploitation commerciale déjà du voyage.
Ah oui, puis surtout on va remplir les trains comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez prendre votre billet de train, mettons depuis Paris, par exemple le dimanche matin, et pour aller au Havre, où vous allez, ou à Rouen, ou à Dieppe, pour aller voir la mer, et la compagnie de chemin de fer va vous donner votre voyage aller, votre voyage retour, mais aussi votre nuit d'hôtel sur place, en association avec les hôtels de la ville où vous rendez, pour un coût moindre. Et ça permet, c'est ce qui fait... J'avais cherché quand est-ce qu'apparaissait la notion de démocratie dans la pratique touristique, et c'est vraiment, ça se passe aux alentours de 1860. Alors évidemment, c'est très critiquable parce que très peu de gens en profitent véritablement du tourisme.
C'est une petite bourgeoisie qui va commencer à en profiter.
C'est une petite bourgeoisie, mais vous savez, il y avait au 19e siècle ce que les ouvriers appelaient la Saint-Lundi. Quand on travaillait le samedi, le dimanche était généralement chômé, mais quand vous aviez suffisamment d'argent, vous pouviez vous offrir votre lundi. Et vous ne rentriez travailler que le mardi. Cette Saint-Lundi-là, elle a été aussi le moyen pour vous de justement de partir en ce qu'on n'appelait pas encore week-end au bord de la mer.
Et alors, est-ce que c'est il n'y a pas déjà une opposition entre une vision peut-être élitiste du voyage et une vision plus consumériste dès la fin du XVIIIe siècle? Le comte de Bechtold décrit voyager est un art et nous n'en faisons qu'un plaisir. Donc il y a cette critique du plaisir lié au voyage.
Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment les gens du XIXe siècle. La recherche du plaisir pour le plaisir, c'est quelque chose de compliqué. C'est pas tout à fait moral, c'est un peu illicite. C'est vrai dans le domaine du voyage comme dans le domaine du sexe. Et on va encadrer ces pratiques de multiples dispositifs. Et dès le départ de ce tourisme contemporain, ce qu'on n'appelle pas encore le tourisme de masse, il y a cette tension qui est très très forte entre ceux qui auraient la légitimité pour voyager parce que ils sont capables de jouir du spectacle du monde, de l'apprécier parce qu'ils en possèdent à la fois la culture et aussi la sensibilité. Et puis il y a ceux qui en sont radicalement incapables. Et à cause du train, à cause des trains de plaisir, et puis à cause par la suite de tout ce qui va être développé, les congés payés de 1936 ne constituant que l'aboutissement du phénomène en réalité. Hein. On va énormément critiquer ces touristes qui vont pourrir les paysages de l'élite.
Et en même temps, l'élite va trouver peut-être de nouveaux lieux pour se réunir du côté, par exemple, des stations thermales. On en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Done laid around, done stayed around this old town too long. Summer's almost gone, winter's coming on. Done laid around, done stayed around this old town too long. And it seems like I've gotta travel on. And it seems like I've gotta travel on. Papa writes to Johnny, Johnny can't come home. Johnny can't come home. Johnny can't come home. Papa writes to Johnny, Johnny can't come home. Johnny's been out on the road too long. So I done laid around, done stayed around this old town too long. Summer's almost gone, winter's coming on. Done laid around, done stayed around this old town too long. And it seems like I've gotta travel on. That chilly wind will soon begin and I'll be on my way. I'm going home to stay, I'm going home to stay. That chilly wind will soon begin and I'll be on my way. And I feel like I just don't want to travel on. So I done laid around, done stayed around this old town too long. Summer's almost gone, winter's coming on. Oh yes, I've done laid around, done stayed around this old town too long. And it seems like I don't want to travel on.
Vous écoutez Gotta Travel On de Bob Dylan sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous poursuivons notre excursion dans les pas des voyageurs du 19e siècle en compagnie de l'historien Sylvain Venner. Et il est temps pour nous d'aller faire un tour du côté des stations thermales. Alors le goût pour les bains, ce n'est pas quelque chose de nouveau, Sylvain Venner, mais ce qu'on constate dans la première moitié du 19e siècle, c'est qu'il y a une explosion du nombre de baigneurs au fur et à mesure du 19e siècle.
Ah oui, c'est une mode incroyable. Alors finalement, on peut faire remonter ça très très loin. Les thermes des Romains, la redécouverte du thermalisme au XVIe siècle, il y a beaucoup de choses.
Madame de Sévigné en parlant aussi dans ses lettres.
Madame de Sévigné, Diderot. Mais il y a quelque chose qui change tout de même, effectivement, au début du XIXe siècle et qui est lié à cette nouvelle conception médicale qu'on a souvent réunie sous le nom de néo-hippocratisme. Cette idée que pré-pastorienne, hein, avant la révolution impulsée par Louis Pasteur, que nos maux venaient d'un dérèglement du rapport entre notre corps et son environnement. Et que les maladies viennent de là. On a abandonné l'ancienne théorie des humeurs, mais on n'a pas encore les microbes, et on a ce hérité du corpus hippocratique antique, cette conception-là. Elle est très très forte. Elle demeure même un petit peu encore aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, ce qui manifeste le danger des maladies, ce sont les mauvaises odeurs. On part du principe que l'absence de mouvement de l'air, l'absence de mouvement de l'eau, qui se signale par des mauvaises odeurs, est le moyen de la création de miasmes par génération spontanée. Et ce sont ces miasmes qui vont vous rendre malade.
Et c'est pour ça que les nouvelles stations thermales, balnéaires, sont composées de larges avenues pour faire circuler l'air, selon cette théorie miasmatique.
Le premier conseil que va vous donner un médecin si vous êtes malade, si lui est complètement imprégné de cette théorie-là, ils sont nombreux dans la première moitié du 19e siècle, c'est de changer d'air. Vous êtes malade, changez d'air. Alors, si vous avez ce qu'on appelait au 19e siècle une maison aux champs, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui une maison de campagne, une villégiature, pour reprendre un mot italien du 16e siècle, on va vous envoyer là-bas. Mais si vous n'en avez pas, on va effectivement vous conseiller de partir. Alors, ce sera assez varié. C'est effectivement, si vous êtes malade l'hiver, on va vous envoyer sur ce qu'on appelle à partir de la fin des années 1880 la Côte d'Azur, qu'on appelait à l'époque la Riviera, pour bénéficier de l'air salin de la mer.
On prend des bains de mer à la lame. Qu'est-ce que ça signifie, les bains de mer ?
Alors, les bains de mer à la lame, on les prend pas sur la Côte d'Azur. On les prend sur les côtes du Nord, et ça, c'est en particulier en Normandie. Et ça, c'est lié au fait qu'on pense que le bain de mer, c'est la panacée, en quelque sorte, par rapport à tous les bains qu'on peut prendre dans toutes les stations thermales qui se développent autour, en particulier de Vichy, au 19e siècle. Le bain de mer, lui, représente l'absolu de tous les bains possibles, sauf que le bain de mer, ce qu'on appelle le bain de mer à l'époque, c'est dans une mer froide, un bain qui va durer entre 20 minutes et une demi-heure, que vous ne pratiquez pas tout seul, mais que vous pratiquez avec un maître baigneur qui va vous prendre par les bras et qui va vous plonger la tête la première dans la lame au moment où la vague se brise. L'idée étant, les médecins en sont convaincus, que la suffocation est essentielle au traitement.
Et c'est donc il y a tout un protocole à suivre.
Tout un protocole qui se manifeste dans l'espace des grèves avec la création des premiers établissements de bains de mer, le premier en France, sur le modèle de ce qui s'est fait à Brighton en Angleterre à partir des années 1750. En France, le premier établissement de bains de cette sorte est créé à Dieppe au milieu des années 1820. On a d'ailleurs des procédures de lancement publicitaire de ces établissements qui sont assez au point. À Dieppe, c'est la duchesse de Berry elle-même qui va assurer la publicité de l'établissement.
Et rapidement, on voit tout le potentiel de richesse qu'il y a dans ces nouvelles stations, qu'elles soient thermales ou balnéaires.
Ah oui, ce sont les stations thermales les premières, et puis les stations balnéaires, ce sont des bâtiments très beaux, néoclassiques, réservés à une élite sociale pour laquelle on crée des bâtiments comme ce qu'on appelle à l'époque un casino, et qui n'est que secondairement un espace pour les jeux d'argent, mais qui est d'abord un lieu de spectacle, des bibliothèques dans lesquelles vous pouvez lire la presse de l'Europe entière, puisqu'on s'adresse à cette élite-là. Oui.
Donc on voit bien qu'il y a une tension entre l'impératif de santé et la volonté de jouissance. On parlait tout à l'heure du plaisir. Il y a quand même cette tension qui existe, Sylvain Venner.
Oui, un souci de distinction sociale aussi, puisque les différentes stations vont s'ordonner en fonction de la richesse de leurs clients.
Alors justement, on va aux eaux, comme on dit, effectivement, aussi pour fréquenter la bonne société.
L'été, la mode, ou le soin de sa santé, qui est aussi une mode, veut que l'on voyage. Quand on est un bourgeois cossu, bien obéissant, respectueux des usages mondains, il faut, à une certaine époque de l'année, quitter ses affaires, ses plaisirs, ses bonnes paresses, ses chères intimités, pour aller, sans trop savoir pourquoi, se plonger dans le grand tout. Selon le direct langage des journaux et des personnes distinguées qui les lisent, cela s'appelle un déplacement. Terme moins poétique que voyage, et combien plus juste. Certes, le cœur n'y est pas toujours à se déplacer, on peut même dire qu'il n'y est presque jamais. Mais on doit ce sacrifice à ses amis, à ses ennemis, à ses fournisseurs, à ses domestiques, vis-à-vis desquels il s'agit de tenir un rang prestigieux, car le voyage suppose de l'argent. Et l'argent, toutes les supériorités sociales. Donc je voyage, ce qui m'ennuie prodigieusement. Et je voyage dans les Pyrénées, ce qui change en torture particulière l'ennui général que j'ai de voyager.
Un extrait du roman d'Octave Mirbeau, Les 21 jours d'un neurasthénique, paru en 1901. Ce qu'on entend ici, c'est que ces villes d'eau sont l'occasion de se montrer, même si cela provoque un immense ennui.
Oui, alors là aussi, c'est des affaires de date. En 1901, c'est déjà un peu tardif comme dénonciation. Cette idée des 21 jours, c'est parce que le temps de la saison des bains a été fixé à 21 jours dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc, il est question de ça. La neurasthénie est une maladie nouvelle à l'époque. Elle a été inventée par le docteur Bird en 1869. Et à l'époque de Mirbeau, on la soigne plutôt par des croisières qu'en allant au bain. Et surtout, à l'époque de Mirbeau, on n'est plus... Bon, lui, il est dans une féroce dénonciation du mode de vie bourgeois qui irrigue toute son œuvre en réalité. Mais on n'est plus, c'est plus compliqué parce qu'il existe déjà à ce moment-là des contre-modèles de voyages touristiques populaires.
Lesquels, par exemple ?
Par exemple, on a commencé à découpler un petit peu l'impératif thérapeutique et l'impératif de plaisir.
On assume désormais de partir uniquement pour le divertissement.
D'abord, il y a quelque chose que Mirbeau ne dit pas, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent, il faut aussi avoir du temps libre. Donc, et ça, toutes les professions ne s'y prêtent pas. Alors l'idéal, même quand ils ne le sont pas, l'idéal des bourgeois du 19e siècle est d'être rentier, c'est-à-dire de bénéficier de ce temps libre. Mais ce n'est pas le cas tout le temps. En 1901, à ce moment-là, à la Belle Époque, une gamme assez complète désormais de stations. Parce qu'on parlait de stations à partir des années 1860, donc stations thermales, stations balnéaires, de plus en plus des stations d'altitude qui sont plutôt un peu rusées parce que à partir du moment où Pasteur prouve que les colonies microbiennes sont moins présentes en altitude, eh bien finalement...
On peut vanter les vertus thérapeutiques
de l'altitude. C'est-à-dire on arrive à concilier à la fois le néo-hippocratisme et la révolution pastorienne en pratiquant un changement d'air qui est aussi un moyen d'évacuer des microbes. Et c'est le moment où l'Europe entière se couvre de sanatoriums en altitude.
Oui, parce que c'est aussi une période, la fin du 19e siècle, où émerge l'alpinisme et ce goût pour le sport. C'est intéressant de voir que le tourisme se développe finalement de concert avec le sport. Et tous deux sont des mots d'ailleurs anglais récupérés par la langue française.
Oui, et pour être franc, vers 1830-1840, sous la monarchie de Juillet en France, quand quelqu'un se définit comme un touriste et qui se définit comme un sportsman, finalement, ça n'est pas tellement différent. À la fin du 19e siècle, il faut distinguer deux dans l'histoire du sport. Le sport spectacle, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce dont on parle là et qui est quelque chose de très impressionnant puisqu'on construit des stades, des vélodromes, etc. Et puis des pratiques sportives, celles des anciens sportsmen, dont les deux principales pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui sont l'alpinisme, en effet, avec la création des premiers clubs alpins dans les années 1850 et une sorte d'international de l'alpinisme, mais qui va créer des emplois nouveaux, comme ceux dont on connaît l'histoire de Chamonix, hein, autour des guides de montagne, par exemple, et de ces hôtels d'altitude.
Avec des alpinistes qui se pensent peut-être comme une certaine élite du tourisme.
Qui en sont, c'est incontestable. Mais ce qui va changer, à peu près au moment de Mirbeau d'ailleurs, là, quelques années après son texte, à la fin des années 1900, ça va être, et qui va faire basculer l'histoire de la montagne dans autre chose, c'est l'importation du ski nordique, et qui va justement permettre d'abandonner cette dimension résolument élitiste de l'alpinisme influencé par les pratiques britanniques, vers quelque chose de très différent qui va lancer la mode de la montagne d'hiver.
L'alpinisme qui se développe et également le cyclisme qui là encore unit sport et tourisme parce qu'on voyage grâce au vélo.
Et oui, le cyclisme c'est vraiment un phénomène intéressant dans l'histoire du sport puisque c'est d'abord un spectacle qu'on va voir avec les grandes courses que les journaux mettent en place à partir des années 1870-1880, mais c'est aussi du coup une pratique individuelle qui est à l'origine en réalité de la fondation du grand club de tourisme français qui est le Touring Club en 1890 et qui était pensé comme des pratiques alors au départ élitistes et puis qui vont être de plus en plus populaires de randonnée à vélo. Il y a 50 000 vélos en France en 1890, il y a 1 million de vélos en France en 1900. Il faut se représenter ce que la révolution que représente alors la bicyclette, et le Touring Club de France essaye au fur et à mesure que la bicyclette se démocratise de conserver le plus possible son, par souci de distinction encore une fois, son niveau social.
Et donc l'usage de la bicyclette est moins un usage pragmatique d'utilité du quotidien que véritablement de voyage, d'exploration.
Oui, il y a un petit peu ça. C'est-à-dire, mais ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'on. C'est comme le camping, si vous voulez. Le camping qui se développe à peu près en même temps que la bicyclette, à peu près en même temps que le texte de Mirbeau là vers 1900, n'est pas du tout ce camping qu'on va avoir dans les années 1960-1970, c'est-à-dire un moyen de voyager à bon marché. C'est même exactement l'inverse. En réalité, c'est un moyen pour une élite sociale de pouvoir dire par rapport au train de plaisir, à ceux qu'on appelle les plaisirins et les plaisirènes, qui sont des gens du peuple qui vont passer le dimanche au Havre. Là, nous, on va redécouvrir vraiment ce qu'est le voyage, ce qu'est l'effort, C'est une volonté de distinction, oui.
Et alors, c'est intéressant de voir qu'au fur et à mesure du 19e siècle, il y a cette industrie du voyage d'agrément qui se développe. Et alors, à quel moment apparaissent précisément les premières agences de voyage, Sylvain Venet? Vous avez parlé de ces trains de plaisir. C'est à peu près à cette époque que cela apparaît?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire quand les compagnies de chemin de fer mettent en place ces trains de plaisir, donc je vous dis en France c'est l'été 1847, ce sera pareil dans tous les pays du monde hein, où il y aura des chemins de fer, on commence à distinguer les agences de voyage. Vous savez, si vous êtes à Paris dans les années 1820-1830, il existe des agences qui vont vous régler plein de problèmes. Donc vous allez vous rentrer dans ces agences et puis vous allez pouvoir faire tout ce qu'aujourd'hui on fait dans des agences très très différentes que sont les agences immobilières, les agences matrimoniales, les agences de tourisme, les agences de détectives privés.
Là, ce sont des agences multi-usages.
Elles sont au départ un peu multi-usages et elles commencent à se spécialiser vers ces années 1840-1850. La principale réussite dans ce domaine-là est évidemment une entreprise britannique, qui est l'entreprise qui est fondée par Thomas Cook en 1841, mais qui va vraiment se développer à partir de 1851 au moment de l'exposition universelle de Londres, et qui va donner le ton pour toutes les grandes agences qui existent encore, hein, et qui va donner le ton pour toutes les grandes agences de voyage à travers le monde.
Justement, sur l'agence Thomas Cook, je voudrais vous faire entendre Philippe Glohagen, qui est le cofondateur du Guide du Routard.
C'est un modeste menuisier d'un village du comté du Berry qui parcourait à pied les campagnes pour distribuer des brochures qui décrivaient les ravages de l'alcoolisme. On est à l'époque des ligues de vertu. Vous savez, ce monsieur s'appelle Thomas Cook. Le 5 juillet 1841, il emmène 500 personnes d'une association dans un train spécial qui va de Leicester à Loughborough, et à l'occasion d'un grand meeting anti-alcoolique. Et à cette occasion, il rédige évidemment une plaquette pour leur donner des informations, comme on fait toujours aujourd'hui d'ailleurs. Il passe à cette occasion un accord avec la compagnie des Midland Counties Railways. Il négocie des billets à prix réduit contre la promesse d'occuper toutes les places du train. Eh bien, ça lui donne une idée. C'est-à-dire que puisqu'il voit que la compagnie ne fait aucune difficulté à concéder des rabais importants, il se dit que ça pourrait être généralisé.
Voilà une agence qui est née en 1841, vous l'avez dit, mais qui va connaître véritablement un grand succès dans les années 1880. On peut dire que l'agence Cook domine à ce moment-là le marché des agences de voyage.
Oui, et puis ce qui s'est pas arrivé tout de suite, parce qu'effectivement, comme il le disait, pendant 10 ans, c'est surtout une société de tempérance. Ce sont vraiment les expositions universelles qui vont lancer ça. Alors, on le fait en 51 à Londres, surtout on le fait en 55 à Paris. Cook n'est pas le seul, il y a un autre, Henry Gaze, qui fait ça au même moment. Et là où l'agence frappe un grand coup, l'agence Cook, c'est plutôt sous la direction du fils de Thomas Cook. Et avec toute une série de premières qu'on peut donner des exemples. En 1869, l'agence Cook met en place un premier service de bateaux à vapeur sur le Nil, et les croisières sur le Nil, ça va être quelque chose à la fin du 19e siècle. En 1873, pour la première fois, elle envoie ses clients pour une grande croisière de 300 jours autour du monde.
Et c'est un modèle économique qui est aussitôt copié, par exemple, par les agences françaises ou d'autres pays européens.
Qui essaye. En France, les agences un peu sur ce modèle-là apparaissent dans les années 1870, mais Cook a une longueur d'avance. Il faut voir que si vous faites un voyage Cook, si vous êtes ce que les Parisiens appellent vers 1900, si vous devenez un homme ticket, c'est que vous arrivez à Paris, vous êtes londonien. Par l'agence Cook, vous arrivez par le train, vous avez un employé de l'agence qui vient vous chercher en costume de l'agence Cook à la sortie du train, qui vous porte vos bagages, qui vous amène directement à l'hôtel et qui vous distribue ce truc absolument incroyable que sont les coupons d'hôtel. C'est-à-dire qu'en échange d'un surcoût, qui est de l'ordre de 10%, vous partez en voyage absolument sans argent personnel, parce que vous allez régler toutes vos dépenses d'hôtel et de restaurant grâce au coupon Cook et aux accords que Cook a passé avec les différents hôtels ou les différents restaurants sur votre parcours. Il faut voir qu'en 1908, ces accords existent avec le Japon.
En 1880, une logistique considérable pour reprendre un terme d'aujourd'hui.
Logistique considérable. Et puis, quand on réfléchit un petit peu à ce qu'a été l'histoire de la globalisation, disons, depuis le début du 19e siècle, l'agence Cook, elle crée... C'est une des premières, avec la Lloyd's par exemple, en termes d'assurance, c'est une des premières entreprises globales. Elle a des bureaux de plus en plus partout dans le monde. C'est une sorte de multinationale, on dirait aujourd'hui, mais elle a réussi à créer sa propre monnaie.
Et en même temps, ça suscite un certain nombre de critiques. Le succès des agences de voyage entraîne des critiques autour d'une massification du tourisme, justement.
Oui, c'est cette idée que, mais ce sont pas les agences qui créent la critique. La critique, elle arrive en même temps que le début du tourisme. C'est la même critique à propos des guides de voyage, par exemple, dès justement la standardisation des guides, dès le code de l'astérisque avec les guides Baedeker. C'est cette idée que vous êtes plus un voyageur. Mais vous faites partie du troupeau des touristes. Vous allez voir la même chose que ce que les autres vont voir. Vous êtes obligé de vous ébahir devant la même cascade, de rentrer dans la même église pour aller voir le même vitrail. Et cette critique-là, elle est ancienne. Hein. On la trouve dès la fin du XVIIIe siècle. Elle est avant l'industrialisation du tourisme. Alors après, elle va trouver énormément à s'alimenter par les guides. Mais par exemple, si on pense au guide du Routard, qui est écrit en 1973, et dont on s'est beaucoup moqué du fait que tout en étant un guide alternatif, en réalité, il reproduisait exactement le même système qui consiste à conseiller d'aller voir telle ou telle chose à voir, avec effectivement
une notation spécifique.
Avec une liste d'hôtels dans lesquels vous êtes à peu près certain de retrouver finalement les gens qui ont acheté le même guide que vous. Cette critique-là, vous l'avez déjà avec les guides Johann, les Baedeker, les Murray du début du 19e siècle.
Et justement, ces guides de voyage connaissent une concurrence importante. Vous parlez des guides Johann qui ont été lancés par Hachette dans les années 1850. Ils sont largement concurrencés par les manuels allemands de Karl Baedeker. Il faudra attendre 1920 pour que ce duopole disparaisse avec l'arrivée justement de Michelin.
Oui, c'est ça. C'est pas un vrai duopole, parce qu'en réalité, les Johann sont peu traduits, les Murray anglais sont peu traduits, alors que ce qui fait l'originalité de Baedeker, c'est précisément d'être traduit dans toute l'Europe avec ses petites couvertures rouges. Et là, ce qui va se passer à partir de 1920 avec le Michelin, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, on n'a plus des guides qui s'adressent à des gens qui partent pour l'essentiel en train et parfois en bateau à vapeur. On a des guides pour les gens qui partent en automobile. Et l'automobile, à partir de ce moment-là, elle va être vécue. Alors ça change, aujourd'hui, on voit ça sous nos yeux, mais l'automobile est vécue quand même pendant pas loin d'un siècle comme le rétablissement du prestige de l'aventure individuelle dans le voyage.
Il y a une idée d'autonomie, d'émancipation individuelle.
Vous allez là où vous le voulez. Alors en fait, on s'aperçoit bien que c'est faux, parce que vous allez là où la route va, et que finalement, quand vous arrivez dans une ville à la sortie de la gare et que vous êtes à pied, vous avez peut-être plus de liberté qu'en voiture. Mais pendant longtemps, c'est effectivement ça qui sera dit.
Et puis, il y a une notion importante qui émerge peut-être au 19e siècle, peut-être plus tôt, mais c'est cette notion de confort qui va soutenir le développement de l'industrie du voyage. Et là encore, c'est un mot qui est emprunté à l'anglais.
C'est anglais, oui. Quand Rimbaud parle des voyageurs modernes qui sont britanniques, il a un vers où il dit « le sport et le confort voyagent avec eux ». Oui, ce confort, c'est celui qui fait qu'on va pas seulement mettre des astérisques aux monuments, mais on va aussi les mettre aux hôtels et puis bientôt au restaurant. C'est celui qui a comme idéal un voyage qui ne soit pas dur, qui soit pas contraignant.
Et puis cela accompagne aussi
une sorte de armchair traveler, comme disent les Britanniques, un voyageur dans un fauteuil. Mais cette fois-ci, c'est le fauteuil qui voyage en même temps que lui.
Et cela permet le développement de cette industrie plus spécialisée de fabrication d'articles de voyage, de mal en cuir notamment, et toute une industrie qui se développe à ce moment-là.
Ah oui, ça c'est une histoire fascinante qui est celle justement de l'histoire de la valise, l'histoire de la malle, qui est en France très étroitement associée à l'industrie à Louis Vuitton. Mais qui n'est pas la seule. Dans les expositions universelles, à Paris en 55, à Paris en 78, on présente des objets de voyage qui aujourd'hui sont dans les musées, dans lesquels vous pouvez voyager avec ce sont des meubles, avec un secrétaire, avec une penderie, avec d'immenses cartons à chapeau, et qui là aussi, c'est ce qui fait aussi qu'il y a une forme de nostalgie bizarre dans tout un tas de publications, voire de séries ou de films autour de cet âge d'or du voyage qu'incarnerait par exemple l'Orient Express et entre disons les années 1870 et les années 1930.
Il y a par exemple la maison Godillot qui se spécialise dans ces malles de voyage,
la
alors
maison
que
Godillot, oui.
On connaît davantage peut-être les chaussures.
Oui, parce qu'il avait obtenu le marché des chaussures de l'armée en France, donc les Godillot étaient devenus les chaussures des soldats, mais lui avait créé le bazar du voyage dans lequel on trouvait énormément d'articles de voyage.
Vous parlez d'autonomie, quand les guides de voyage imprimés apparaissent, c'est aussi dans l'idée de se passer de guide humain, de se passer notamment de la figure du cicérone qui accompagne le touriste partout.
Le cicérone, oui, c'est ça, ou alors... Oui, c'est ça. Ce sont tous ces gens qui prenaient en charge le voyage et qui étaient toujours décrits dans tous les récits de voyage aristocrates ou bourgeois du 19e siècle comme des importuns.
Mmh. Oui, ils ont mauvaise réputation.
Qui embrouillaient tout, qui étaient des arnaqueurs, mais c'était aussi ça a été une stratégie textuelle vengeresse de la part des voyageurs qui en fait pendant tout leur voyage étaient entièrement soumis à leur cicérone, et pour une bonne raison, c'est que bien souvent, ils ne parlaient pas la langue du pays. Et donc, s'étant trouvés en position d'infériorité pendant la durée de leur voyage, au moment d'en écrire le récit, ils ont un petit peu tendance, parfois, à se venger.
On arrive presque au terme de cette émission. Sylvain Venner, un dernier mot peut-être sur ce tourisme, sur ces voyageurs du 19e siècle. Tourisme qui correspond à une première démocratisation du voyage, comme on l'a dit, avant évidemment l'essor du tourisme de masse au 20e siècle.
Oui, c'est ça. Et puis surtout, on pourra toujours critiquer ces termes de démocratisation du voyage ou de tourisme de masse, parce qu'ils sont évidemment critiquables, parce que ça n'a concerné pendant très très longtemps qu'une partie de la population mondiale, et en fait, européen et nord-américain, hein, pour le dire comme ça, assez vite. Et puis de toute façon, à l'intérieur même de ces sociétés, l'immense majorité des gens ne partaient pas en voyage. Et encore aujourd'hui, une grande partie des gens ne partent pas en voyage. Donc ce sont évidemment des appellations contestables. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis les origines de ce tourisme et de ce couple bizarre du voyageur élitaire et du touriste qui serait populaire, c'est-à-dire en gros depuis le tournant des 18e et 19e siècles, on a mis en place tout un système de normes morales et de condamnations morales qui n'a pas tellement changé.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrat pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de la ratification programmée du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada.
Oui, c'est le président de la République lui-même qui, à l'occasion de la visite de son homologue canadien, a remis cette question à l'ordre du jour en appelant le Parlement à examiner et à ratifier au plus vite le texte du CETA. Il n'en a pourtant pas toujours été ainsi. Il fut un temps où le président promettait de ne pas signer les traités qui iraient à l'encontre des engagements de la France pour l'environnement et notamment des accords de Paris.
Il y a urgence. Alors mettons-nous en conformité avec les engagements que nous avons pris. Faisons en sorte que nos engagements commerciaux intègrent nos contraintes environnementales et sociales.
Il y a un peu plus d'un an, le président de la République s'engageait donc solennellement à la tribune des Nations Unies à faire primer l'urgence climatique et environnementale sur les considérations commerciales. Un temps qui semble désormais bien lointain. Pourtant qualifié de climaticide par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, il semblerait que rien ne soit désormais plus urgent que de voter l'accord de libre-échange.
Une commission d'évaluation placée auprès du Premier ministre a également conclu aux conséquences néfastes de l'accord en matière environnementale.
Oui. Car il faut rappeler que par une étrangeté démocratique toute européenne, l'accord commercial transatlantique est désormais entré en application, et ce, avant même d'avoir été ratifié par les députés français. Depuis le 21 septembre 2017, ce sont ainsi la quasi-totalité des articles du traité qui sont appliqués. Et c'est justement sur cette partielle application que s'est fondée la commission d'évaluation pour rendre ses conclusions. Mandatée par le Premier ministre, cette mission d'experts a rendu un avis on ne peut plus clair, concluant aux conséquences défavorables de l'accord sur l'environnement. Selon leurs travaux, le CETA devrait ainsi entraîner une forte hausse des émissions de gaz à effet de serre, causée notamment par l'augmentation du transport international et la promotion des investissements dans les énergies fossiles, comme l'extraction de sable bitumineux au Canada.
La Commission s'inquiète également du risque de voir les politiques de transition écologique remises en cause par les intérêts privés.
Absolument, une dérive qui serait provoquée par l'entrée en vigueur des tribunaux arbitraux, ces aberrations démocratiques qui permettent à une firme de porter plainte contre un État lorsqu'elle juge qu'une de ses politiques va à l'encontre de ses intérêts. On se rappelle ainsi de l'entreprise Philip Morris qui avait, grâce à ce mécanisme, attaqué le Togo pour faire annuler la neutralité des paquets de cigarettes, ou de Veolia attaquant l'Égypte qui avait osé augmenter le salaire minimum de 31 euros par mois. Et voilà justement que le CETA prévoit la mise en place d'un même mécanisme au niveau européen.
Mécanisme qui ne sera effectif qu'après sa ratification par le Parlement français.
Exactement, comme l'explique l'économiste et eurodéputée Aurore Laluc, la ratification nationale du CETA irait ainsi encore plus loin dans l'abîme climatique, puisqu'elle permettrait aux multinationales basées au Canada d'attaquer l'UE ou les États membres dès lors que ces derniers adopteraient des règles dommageables à leur profit. Surtout, la ratification de ce traité commercial de nouvelle génération ouvrirait la voie à une série d'autres accords actuellement en discussion avec les États-Unis par exemple ou le Vietnam. Ratifier le CETA serait donc une manière de prolonger et de confirmer des politiques commerciales issues d'un monde qui n'est déjà plus en contradiction totale avec la protection des hommes et de l'environnement.
C'est le groupe The Do et le titre Travel Light qui conclut cette émission. Merci beaucoup Sylvain Venère de nous avoir fait voyager tout au long du 19e siècle aux côtés des touristes, des promeneurs et des alpinistes. Demain, c'est le modèle économique d'Airbnb que nous allons interroger avec les économistes Pierre Madec et Charles-Antoine Schwerer. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.